Suivez votre émission Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, la référence du paiement de facture via le mobile. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Il est 8h10 en temps universel. Bienvenue si vous nous rejoignez dans 30 minutes. RFI vous donnera la parole pour commenter l'actualité togolaise au Togo où la campagne électorale en vue des législatives se termine dans quelques heures à minuit. Des élections certes sans enjeu majeur puisque la principale coalition de l'opposition a décidé de boycotter le scrutin. Mais les responsables religieux, l'ONU, l'Union européenne, les ambassades des États-Unis, de France et d'Allemagne reconnaissent suivre avec préoccupation les derniers développements de la situation. Il faut dire que le climat est tendu, l'opposition poursuit ses appels au boycott, elle affirme qu'elle utilisera tous les moyens pour empêcher, je cite, un coup de force électoral. En tout cas, le gouvernement lui affirme que le processus ira jusqu'au bout, ce processus est irréversible, les élections se tiendront bel et bien ce jeudi. Alors comment s'annoncent les législatives? Vous êtes sur place au Togo, appelez-nous, témoignez en direct sur RFI. Vos réactions, vos commentaires évidemment nous intéressent, 33 9 693 693 70. Vous continuez à poster vos commentaires sur la page Facebook RFI Appel sur l'actualité. J'en lirai évidemment quelques-uns tout à l'heure pour alimenter la réflexion. Mais d'abord, ce sont vos questions à la rédaction de RFI, vos questions pour mieux comprendre l'actualité. Nous allons commencer avec des questions sur la situation sécuritaire dans le nord-est du Mali, près de la frontière nigérienne. Bonjour Boubacar.
Et bonjour Juan.
Vous nous appelez justement du Mali, vous êtes à Sévaré dans le centre du pays, nous vous écoutons.
Ok, merci Juan. Au Mali, en fait, plusieurs civils Touaregs ont été assassinés à l'est du Mali. Comment expliquer qu'aucun bilan officiel n'a été établi alors que le mouvement pour l'Estadi de l'Azawad parle de 47 morts?
47 morts, dit ce mouvement, l'espace de quelques heures, de deux jours. Serge Daniel est avec nous, il est le correspondant de RFI à Bamako. On va essayer d'y voir plus clair, évidemment, sur ces événements survenus la semaine dernière. Bonjour Serge.
Juan, bonjour, et Boubacar, bonjour à Sévaré.
Alors, la semaine dernière, des djihadistes présumés ont fait irruption dans plusieurs localités du sud de la région de Ménaka, avant de revenir sur ce bilan peut-être controversé. Un mot tout de même sur les faits. Que s'est-il passé? Que sait-on exactement?
Alors, nous sommes, Juan, dans la nuit du 11 au 12 décembre dernier, des hommes armés sur une vingtaine de motos font irruption dans plusieurs localités, dans des campements en fait du sud de la région de Ménaka, environ une trentaine de kilomètres au sud de Ménaka, et ces personnes, ces hommes armés, ont exécuté des civils originaires de cette région, des hommes qui étaient dans leur campement, des civils qui étaient assis pour la plupart, qui ont été massacrés. Voilà brièvement ce qui s'est passé.
Le mouvement pour le salut de l'Azawad fait état de 47 morts. D'autres invoquent des chiffres encore beaucoup plus importants. Y a-t-il eu un bilan officiel?
Alors, Juan, il n'y a pas eu de bilan officiel. Pourquoi? Parce qu'après les faits, les premiers à arriver sur les lieux sont les combattants du mouvement pour le salut de l'Azawad, MSA. Le MSA est un groupe armé créé après la signature de l'accord de paix d'Alger et qui a pris en chemin le processus de paix. Lorsque les combattants du MSA sont arrivés sur les lieux, ils ont affirmé avoir compté 47 corps de civils. Alors, les autorités de Ménaka qui n'étaient pas sur place ont demandé au MSA d'attendre l'arrivée des forces de défense et de sécurité du Mali, c'est-à-dire l'armée, la gendarmerie nationale, avant l'inhumation des corps. Mais les FSD, les forces de défense et de sécurité sont arrivés, quand ils sont arrivés, les corps étaient déjà enterrés. Donc quand on parle de source officielle, le MSA n'est pas une source officielle, alors que l'armée est une source officielle. Donc il n'y a pas eu de source officielle. Pour confirmer ce bilan de 47 civils tués, la mission de l'ONU au Mali, par exemple, n'a pas non plus donné d'estimation chiffrée, parce qu'elle n'était pas sur place avant l'inhumation. Mais quelques jours après les faits, il faut le dire, après les recoupements auprès d'élus, auprès de sources sécuritaires, on s'accorde quand même à dire que ce qui s'est passé est grave et qu'il y a eu quand même quelques dizaines de civils originaires de la région de Ménaka tués lors de l'attaque ce sont des Touaregs de la communauté des Daoufak.
Donc quelques dizaines de civils tués sans davantage de précision, pas de chiffres formels. Boubacar, vous aviez une seconde question.
Oui, Rouhan. En fait, les attaques contre les civils deviennent récurrentes maintenant dans le centre et à l'est du Mali. Au centre, c'est une dizaine de civils seuls qui ont été assassinés ces derniers jours. Et à l'est, une dizaine de civils Touareg assassinés également. On a que compte faire l'armée malienne et la MINUSMA, que je rappelle qui a une très grande base à Sévaré, pour pouvoir empêcher ces nouvelles assassinats des civils.
Serge Daniel, que peut-on répondre à Boubacar?
Alors c'est vrai que depuis le début de l'année, il y a plusieurs centaines de civils qui ont été tués dans la région. Ça pose quand même problème. Il y a la MINUSMA, il y a l'armée malienne et Barkhane. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'on ne protège pas, on n'a pas les moyens, on ne déploie pas les moyens pour assez de moyens pour protéger les civils. On ne peut pas dire qu'on ne les protège pas. Mais il n'y a pas, c'est une guerre asymétrique, c'est important, mais avec les moyens que les forces régulières ont sur le terrain, on devrait pouvoir mieux, disons les choses, mieux assurer la sécurité des civils, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
À suivre donc. Vous êtes d'ailleurs sur place, sur le terrain. Appelez-nous, témoignez. Nous vous donnerons évidemment la parole vendredi dans la Libre Antenne. Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire. 33 9 693 693 70. Grand merci donc à Serge Daniel, correspondant de RFI à Bamako. Boubacar, merci également de votre fidélité. Et continuez à nous écouter donc à Sévaré, dans le centre du Mali, où il est 8h17. Des questions maintenant sur la COP 24 qui s'est terminée ce week-end en Pologne. Nous accueillons Lidor, bonjour.
Bonjour, Juan Gomez.
Merci de nous accueillir à Kinshasa, d'où vous nous appelez. Soyez le bienvenu, on vous écoute.
Oui, eh bien, d'abord, merci à toute l'équipe rédactionnelle des RFI.
Merci de vos encouragements.
Voilà. Au lieu du vendredi, la COP 24 a finalement été achevée le samedi passé en Pologne. Et du coup, je voudrais savoir, parce qu'il est dit que le mode d'emploi posait tout à fait problème. Pourquoi il posait problème? Et quel est finalement le consensus qui a été trouvé au sujet de ce mode d'emploi?
C'est vrai qu'après 13 jours de négociations tendues, les 196 pays réunis en Pologne ont fini par s'entendre sur ce que vous appelez le mode d'emploi, les règles qui vont permettre à l'accord de Paris d'être opérationnel. Autrement dit, sans le compromis trouvé il y a quelques jours, eh bien la mise en œuvre de cet accord ne pourrait pas être effective comme prévu en 2020. Séni Nafo est avec nous, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour Alidor.
Séni Nafo, négociateur pour le climat, porte-parole du groupe Afrique à la COP 24. Alidor le disait tout de suite, la COP 24 s'est terminée finalement samedi soir avec une trentaine d'heures de retard. Expliquez-nous sans être trop technique ce qui bloquait.
Alors, on faisait face à trois niveaux de difficultés pour accomplir la mission principale. Vous l'avez dit, il s'agissait d'adopter les règles d'opérationnalisation de Paris. Donc, si à Paris, nous avions une loi, pour parler simple, à Katowice, il s'agissait d'adopter l'ensemble des décrets d'application. Et donc, Paris était une loi générale, politique. Et ici, nous avions besoin de rentrer dans les détails, d'être spécifique. Et donc, il y avait une complexité technique extraordinaire, juste du fait que la majorité de ces règles étaient des règles communes qui s'appliquaient aux pays développés et aux pays en développement. Donc, la nature même de l'exercice, de par la nature de l'exercice, était beaucoup plus technique. Deuxièmement, le nombre et la diversité des sujets sensibles. Par exemple, l'adoption du rapport du GIEC, le groupe d'experts international sur l'évolution du climat, avait produit un rapport sur les impacts d'un monde à 1,5 degré. Beaucoup de difficultés pour les États-Unis, pour certains pays du Golfe à adopter ce rapport-là. Les pertes et préjudices, il s'agit des impacts du changement climatique auxquels on ne peut pas s'adapter, qui est une question essentielle de survie pour les États insulaires, mais qui peuvent avoir également des incidences financières très importantes.
Donc la liste des contentieux, la liste des contentieux est tout de même parlons au passé particulièrement longue. Finalement, quel consensus a été trouvé? Et là aussi, je sais que c'est compliqué car le sujet est très technique, mais quel est le compromis trouvé?
Alors, sur le fond, au moins à trois niveaux. Pour la grande majorité des pays en développement, il fallait des règles qui soient crédibles et robustes en finance. C'est-à-dire que nous avons eu par le passé des engagements financiers annoncés, mais en absence de règles de comptabilité communes, il était très difficile de savoir qu'est-ce qui se passait, est-ce que les fonds étaient de l'aide ou pas. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, il fallait s'assurer que nous ayons des règles qui nous amènent à une certaine intégrité environnementale, notamment sur le marché carbone. Donc par exemple, sur la gouvernance des nouveaux marchés carbone, nous avons décidé d'attendre 2019 pour finir le travail, parce que nous ne voulions pas adopter des règles qui puissent donner des situations qui soient trop avantageuses à certains pays, n'ayant pas justement d'intégrité environnementale. Dernier point, c'est la flexibilité qui doit être donnée aux pays en développement dans la mise en œuvre de cet accord, avec un renforcement de leur capacité pour qu'ils puissent, dans les prochaines années, dans 5 ans, dans 10 ans, être en mesure de rattraper leur retard.
Ouais. Alidor avait une dernière question à vous poser, une question qui est nettement moins technique que la précédente. Alidor.
Oui, au Finnish, il est dit que les pays du Sud devraient recevoir une aide de 10 000 milliards de dollars de ceux du Nord. Concrètement, je voudrais savoir comment se fera la répartition.
Alors, 10 milliards de dollars, c'est la somme qui sera allouée à ce fameux fonds vert pour le climat. 10 milliards de dollars, CENI, NAFO, c'est une somme conséquente. Mais déjà, est-ce suffisant pour faire face aux besoins urgents ?
Non, mais une première clarification. Je crois que les 10 milliards de dollars font référence au niveau de capitalisation initiale du fonds en 2014. Nous ne sommes pas mis d'accord à cette COP sur un niveau explicite, donc sur de capitalisation, mais des orientations ont été données pour que le niveau de capitalisation, de reconstitution, pardon, en 2019 soit au moins ce même niveau-là. Pour la clé de répartition, il n'y a pas une allocation par pays, comme par exemple au Fonds mondial pour l'environnement, où chaque pays connaît déjà son allocation à travers un certain nombre d'indications, mais des orientations sont données. Donc par exemple, nous savons que sur le montant qui va être décaissé, il faut que la moitié soit dépensée entre l'adaptation aux impacts du changement climatique et la réduction des émissions, que les PMA, les pays les moins avancés, les petits États insulaires et l'Afrique soient priorisés, et pour s'assurer qu'il y a quand même une équité entre les pays, qu'aucun pays ne puisse absorber 5% du fonds. Donc ça, c'était les grandes orientations du conseil d'administration qui avaient guidé la capitalisation initiale. Elles vont certainement être reconduites avec quelques améliorations. Mais je voulais rappeler deux petits points
très importants. Rapidement, c'est Nina Faux, et je sais que c'est un sujet important, donc on vous écoute.
Deux autres décisions importantes à moyen et long terme sur le financement. Premièrement, l'évaluation des besoins. Vous parliez, est-ce que 10 milliards c'est suffisant ? Non. Donc à partir de 2020 et pour tous les 4 ans, il y aura une évaluation des besoins exhaustive des pays en développement, qui permettra de lancer une négociation financière. Donc ça, c'est assez important, 2020, tous les 4 ans. Et le deuxième point, c'est un cadre de transparence pour le suivi des engagements. Donc nous avons maintenant des règles très claires qui vont suivre dès l'annonce des engagements financiers des pays en développement. Ils vont devoir faire un reporting dans un format spécifique, avec une évaluation technique, avec des détails entre, voilà, il va y avoir un atelier entre pays développés et pays en développement pour mieux comprendre les engagements, pour mieux comprendre les règles, pour éviter justement tout ce passé de malentendus, oui, de confusion entre pays développés et pays en développement.
Il y a une volonté de transparence, et c'est vrai que les engagements financiers ainsi que l'utilisation des fonds seront à l'avenir consultables sur le site internet du secrétariat des Nations Unies pour le climat. Merci beaucoup, CENI NAFO, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous étiez le porte-parole du groupe Afrique à la COP24. Alidor, voilà pour nos explications. On a pris le temps de vous répondre, hein, ce matin. Du coup, bon, on avait prévu beaucoup de questions. questions sur d'autres sujets, mais on aura l'occasion évidemment de rappeler les auditeurs qui étaient déjà au standard dans les prochains jours et même dès demain matin. On va terminer avec une question concernant l'Espagne. Vous avez certainement entendu dans les journaux de RFI que le gouvernement espagnol allait augmenter le salaire minimum. Bonjour Claude.
Bonjour Juan, vraiment désolé d'intervenir à la dernière minute.
Mais non, vous avez on a 4 minutes pour vous répondre, donc ne soyez pas inquiets. Vous êtes au Cameroun, on vous écoute.
Rebonjour Juan, rebonjour à tous vos collaborateurs. Alors, le gouvernement espagnol a annoncé la hausse de 22% du salaire minimum. Il s'agit là de la plus forte hausse depuis 40 ans. Alors, j'ai entendu qu'il s'agissait d'une stratégie politique de la part de Pedro Sanchez. Qu'en est-il vraiment?
Ah.
Ma deuxième question pour aller au petit trot.
Allez-y.
Comment cette augmentation historique a-t-elle été accueillie par le patronat espagnol?
Ah oui, le patronat qui va devoir évidemment désormais payer plus cher ses salariés, en tout cas ceux qui perçoivent le salaire minimum. Barbara Loyer, bonjour.
Bonjour.
Directrice de l'Institut français de géopolitique, vous êtes spécialiste de l'Espagne. Le salaire minimum devrait donc passer en Espagne dès le 1er janvier de 850 euros par mois à 1050 euros. Alors évidemment, les familles les plus aisées ont de quoi se réjouir. Mais derrière ce geste, et Claude le rappelait, c'est important, vous allez nous l'expliquer, il y a visiblement une stratégie politique.
En effet, parce que le gouvernement de Pedro Sanchez, qui est un gouvernement qui pour l'instant travaille en minorité et qui dépend notamment des indépendantistes catalans au Parlement espagnol, n'est pas sûr que ces indépendantistes vont voter son budget. Et si jamais il ne vote pas le budget avant la fin décembre, il a dit qu'à ce moment-là, il retournerait aux urnes. Donc ce n'est pas exclu qu'il ait besoin de se présenter de nouveau aux électeurs en mars, parce qu'il faudrait que ce soit à ce moment-là, aux alentours du mois de mars, et donc que ce soit des mesures pour, en fait, qu'il soit déjà en campagne électorale, qu'il soit en situation favorable pour être en campagne électorale, sachant qu'ils viennent de recevoir un choc avec le résultat des élections régionales en Andalousie. Le PSOE était au pouvoir depuis 40 ans.
Le Parti Socialiste.
Le Parti Socialiste, pardon, a été au pouvoir depuis 40 ans. Il a reculé d'un tiers de ses voix, il a perdu 14 sièges, et il y a un parti d'extrême droite, Vox, qui est apparu de rien et qui est apparu tout de suite avec 11%.
Mais enfin, il y a très peu de chances que les indépendantistes catalans votent le budget du Premier ministre espagnol, même si le Premier ministre promet la hausse du SMIC, parce que les Catalans, eux, fixent une condition, et elle n'est pas moindre, cette condition. Ils disent, nous votons en faveur de l'augmentation du SMIC, nous allons voter en faveur de ce budget du gouvernement socialiste, mais à une seule condition.
Ben, en fait, si vous voulez, là, le problème, c'est des indépendantistes catalans. Leur condition principale, c'est en effet d'avoir le droit à l'autodétermination et un changement, finalement, de configuration de l'Espagne. Eux, ils ont dit qu'en fait, ils ne renonceraient pas à l'indépendance, mais c'est leur président qui dit ça. À l'intérieur du groupe des indépendantistes, il y a des divisions. Tout le monde n'est pas forcément sur la même longueur d'onde du point de vue de la tactique. Il y a un parti dont la plupart des prisonniers qui sont des élus qui sont actuellement en prison à cause des déclarations unilatérales d'indépendance sont d'un parti qui s'appelle ERC, alors que l'autre, ceux du président Puigdemont, sont moins nombreux à directement concerner.
D'accord.
Et Puigdemont, lui, il est à Bruxelles, et donc il a forcément un autre agenda pour essayer de pouvoir revenir en Espagne. Donc qu'il y ait des divisions qui permettent, au bout du compte, une abstention au moins d'un des deux partis, mais c'est loin d'être gagné, en effet.
Et on n'aura pas eu le temps de répondre à la dernière question de Claude sur le patronat. J'imagine, en 10 secondes, oui ou non, le patronat voit-il d'un bon œil l'augmentation du SMIC?
Non, il ne voit pas d'un
évidemment.
Bon œil, parce qu'ils avaient, en 2018, ils avaient déjà prévu qu'il y aurait une augmentation, ils avaient accordé qu'il y aurait une augmentation, mais qui atteindrait 850 euros en 2020.
Ah oui, alors que là, il s'agit de passer à 1050 euros. Merci beaucoup, Barbara Loyer, d'avoir été avec nous, spécialiste de l'Espagne. Dans un instant, la dernière édition d'Afrique ce matin, et on revient évidemment dans 10 minutes pour le débat.